France Culture, le dimanche, 23h, une porte s'ouvre sur l'imaginaire.
Creation on Air.
Bracelet pour mesurer la tension, balance directement branchée sur un smartphone, les progrès en génétique, en informatique, en médecine nous promettent de conjurer l'apparition d'une maladie grave, mais à quel prix ? Le coût de séquençage du génome humain est tombé aujourd'hui sous la barre des 1000 euros. Radiographie d'un fantasme suscité par la promesse du corps connecté, quand notre corps fait clic, The Wellness par Marie-Annick Bello, JP Verrieras et Gilles Mardi-Rossian.
Alors voilà, ça c'est tout mes premiers objets connectés. Alors il y a la montre hein, bien sûr, alors ça c'était pour mesurer le rythme cardiaque, la tension, le nombre de pas, la quantité de calories dépensées. Alors j'avais aussi des objets spécifiques pour le sport, la course. Là par exemple, ça c'est des semelles connectées. Hein, donc elles sont propres, hein, n'ayez pas peur. Et ça, c'était très utile, ça m'a permis d'améliorer ma course, enfin ma foulée. Et donc, grâce à ça, j'ai développé une meilleure technique de course. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Il y a un tensiomètre ultra précis. Alors ça, c'est mon climo, c'est-à-dire c'est un capteur qu'on embarquait qui mesure la qualité de l'air. Et donc ça, ça a été très très utile. Parce que je me suis rendu compte que je courais dans des endroits extrêmement pollués, je n'avais pas la moindre idée. Et donc grâce à ce petit objet, du coup maintenant, j'évite ces coins-là. Alors là, c'est ma première balance connectée. Alors ça, c'était un peu agaçant parce qu'il y a une voix intégrée, donc à chaque fois qu'on se pèse, on a une petite voix, hein, tu te souviens, qui dit « Maxime, you took 1.3 pounds !» Donc à chaque fois que je montais dessus... C'était quand même pas très agréable, donc j'ai désactivé la voix. Et là, ça c'est mon nécessaire de nuit, donc le bandeau frontal et la plateforme que je glisse en dessous du matelas. Mais voilà, ben maintenant, j'ai plus que ce bracelet, donc un vrai petit bijou qui vient donc du wellness. Et donc là, avec ça, maintenant, tout est réglé.
We see. We feel, we need
the wellness.
We fly, we seal, we cut, we seek, we love, we grow.
Alors ce bracelet peut mesurer toute une batterie de paramètres physiologiques, bon, les paramètres de base bien sûr, comme le nombre de pas, le rythme cardiaque, l'oxygène, le taux de glucose, le cycle du sommeil, etc. Mais aussi, et c'est là où ça devient vraiment très intéressant, des paramètres beaucoup plus fins comme certaines protéines sanguines qui ont été identifiées comme des molécules importantes pour détecter certains changements biologiques précurseurs de certaines maladies, certains cancers notamment. Ça, c'est quand même très précieux. Et tiens, montre-nous le tien de bracelet, regarde. Hein? Qu'est-ce qu'on y voit sur ton bracelet?
Ben, ça nous dit si on est en bonne santé ou pas en bonne santé.
Exactement.
Il nous dit si on mange trop de gras ou trop de sucre ou trop de sel aussi.
Et là, par exemple, tu vois... Là, t'es très bien, parfait. Tu vois le petit bonhomme qui fait un sourire. C'est-à-dire que tout est bien. Tiens.
Merci.
Every day, technology is helping us become more connected.
Most people think healthcare really happens at doctor's offices and hospitals, but if you really think about it, the majority of time is actually when you're at home or you're away from the medical setting.
7.3 billion fellow travelers, each of us with our own hopes, our own dreams, our own needs. Just like everyone needs food and water.
Ce bracelet connecté est devenu indispensable pour Nicolas. Depuis 2 ans, ce père de famille le porte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nombre de pas, calories perdues, kilomètres parcourus, qualité du sommeil, tout est calculé. Nicolas est ce que l'on appelle un adepte du quantified self ou de l'automesure de soi.
C'est devenu essentiel maintenant.
Ces usages ont commencé à apparaître dans deux contextes un petit peu distincts. Le premier contexte, c'était celui des pionniers, où il fallait quand même aller en Californie à la toute fin des années 2000, entre 2007 et 2010, grosso modo, pour voir dans la Silicon Valley un ensemble d'entrepreneurs, de passionnés, de médecins, de sportifs de haut niveau. C'est l'idée du Quantified Self, du mouvement originel de connaissance de soi par les chiffres, qui sont censés accompagner l'individu dans des formes de progression, de suivi, de mesure de la régularité, de la fréquence et de la performance.
When you consider that our physical and social environment are the largest determinants of our health, and we're now spending
les objets connectés ou applications permettent de se fixer des objectifs utiles quand l'Organisation mondiale de la santé recommande de faire 10 000 pas par jour pour entretenir sa forme et préserver sa santé.
Donc il faut se reposer un petit peu et ça tombe bien parce que je suis sur un lit, mais c'est un lit pas comme les autres, il s'agit d'un lit connecté. Mais là, la particularité, c'est que ces capteurs sont intégrés dans le matelas. Donc c'est un matelas intelligent.
C'est ça, enfin, ça arrive en France au début des années 2010 pour le grand public.
Alors on a effectivement des cabines assez incroyables qui sont commercialisées déjà en France.
Mais finalement, quand ces technologies sont diffusées par de la vente en ligne, par des sites spécialisés et puis progressivement par des grandes enseignes de matériel électronique qui commencent à avoir des rayonnages consacrés aux objets connectés.
Donc on prend le petit clip qu'on se met sur le doigt pour la prise de constante, on a des capteurs dans le siège qui permettent d'analyser d'autres données et on arrive à avoir des cabines qui sont très très complètes et qui permettent déjà de prendre pas mal de constantes.
Le glissement ou l'évolution qui est notable à travers cette évolution, c'est qu'encore une fois, au démarrage, le Quantified Self était vraiment orienté vers l'idée que des individus, des particuliers, par eux-mêmes et pour eux-mêmes, faisaient le choix de s'équiper. Ça ne se faisait pas en liaison avec une demande médicale, un hôpital ou l'exigence d'une mutuelle.
Avec ces dispositifs-là, on va pouvoir continuer à vivre à distance, peut-être pas sous le même toit, mais en surveillant notre papa ou notre maman ou le grand-père ou la grand-mère. Et ça peut être bien quand c'est concerté, ça peut être très rassurant pour la personne âgée, mais quand c'est fait à son insu ou de manière trop intrusive, ça peut devenir quelque chose de très difficile.
Et là, évidemment, ces toutes dernières années, c'est le cadrage de ces réflexions qui s'est déplacé pour se dire finalement quels étaient les projets portés par des institutions et les attentes portées par le monde de la santé.
On va savoir combien de temps la personne est restée aux toilettes, pendant combien de temps elle a pris sa douche, à quelle heure elle s'est levée, à quelle heure elle a ouvert ses volets, et quelle est la limite de tout ça.
Smart pantoufle qui va leur permettre, dès qu'il va enfiler cette pantoufle, ça va lui éclairer la pièce et ce qu'il a à voir. Et ensuite, s'il s'approche trop près d'un meuble, ça vibre. Ensuite, si la personne elle a chuté, on a un système de prévention car la chaussure serait connectée en Wi-Fi après sur Internet et permettrait donc de prévenir des proches, des voisins, c'est configurable.
Bienvenue dans le wellness. Welcome to the wellness.
Je m'appelle Maxime, j'ai 35 ans et je travaille comme ingénieur-chercheur dans le domaine de la santé connectée. Et j'ai commencé à travailler pour The Wellness il y a 5 ans, juste après mon post-doctorat à l'université de Stanford en Californie. Mon domaine d'expertise, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, appliquée à la médecine. Et je me suis passionné pour ce domaine dès ma première année de thèse. À l'époque, je développais des algorithmes qui permettent de prédire l'apparition de certaines maladies, comme le cancer du sein ou le cancer du poumon, avec l'idée qu'on puisse réaliser un diagnostic sur la base seulement d'une toute petite goutte de sang, Donc l'idée étant qu'on pourrait alors s'assurer régulièrement que tout va bien sans avoir besoin de faire de mammographie ou de radio des poumons. Une simple petite goutte de sang, comme pour doser le diabète, et on est tranquille, quoi. Alors ça peut paraître de la science-fiction, on dit comme ça, mais en fait avec l'arrivée de l'apprentissage profond en IA et la masse de données personnelles qu'on peut collecter aujourd'hui, on arrive vraiment à faire des choses incroyables. Alors ce qui m'a le plus intéressé avec le programme du wellness, c'est qu'on pousse l'idée encore plus loin à l'échelle d'une ville. En l'occurrence, Oxon, une petite ville de Californie. Et ça part d'un constat très simple. D'une part, personne n'a envie d'être malade. Hein. Et d'autre part, ça coûte moins cher d'aider quelqu'un à ne pas tomber malade plutôt que de le soigner après coup. Donc, à Oxon, tous les habitants, du plus jeune au plus vieux, quel que soit leur niveau de vie, sont équipés d'un petit bracelet qui récolte leurs données de santé en permanence et qui les envoie à un serveur. Et le bracelet, en retour, va les conseiller sur ce qu'ils doivent faire au quotidien pour rester en bonne santé. On appelle ça « the Chinese doctor ».
Your wellness. Your wellness wardrobe.
Your wellness wardrobe.
Yeah.
I was going to say kale. It's gone from kale. You know, because kale, I mean, how many of you guys have suffered through some kale? I mean, it's like eating a weed, right? But I mean, it's hella good for you. So,
your wellness.
You know, that went from kale to quinoa to kombucha. But, you know, I think it's going to be DNA and bio data that's going to be the little brat dress of wellness.
Because your wellness.
Et ce qu'il y a de formidable aussi, c'est que plus on suit les conseils, les recommandations, eh bien moins on paye cher son assurance santé. Donc on a une sorte de bonus-malus.
Ces utopies sont nombreuses, elles renvoient aussi à une histoire qui est une histoire un peu longue, hein, qui n'est pas sans lien avec, y compris depuis les années 1950 et surtout 1960, tout l'essor de la cybernétique et l'idée que les activités du cerveau, les activités du corps peuvent être pensées dans un rapport avec justement des formes de modélisation. Ensuite, on a aussi des utopies qui se sont développées dans des mondes particuliers, qui sont d'une part les mondes de la santé. Il ne faut pas oublier que ces objets connectés ont des ramifications avec le fait que très tôt, dès les années 60 par exemple, on a demandé à des patients atteints de certains types de diabète de noter tout un ensemble de paramètres. Et donc l'idée que leur effort de veille était un processus important de leur parcours de soins. Et puis on a aussi un imaginaire qui est beaucoup plus un imaginaire de la performance dans le monde du sport, qui est évidemment pas sans lien avec la santé, mais dans les années 1970, on a quelques études qui montrent comment aux États-Unis, avec le développement de toutes les salles de sport, on imagine aussi un ensemble de machines, de tapis pour courir, qui s'accompagnent aussi d'outils de mesure et fournissent par de premiers écrans des mesures, des métriques qui sont censées accompagner l'individu dans des formes de progression, de suivi, de mesure de la régularité, de la fréquence et de la performance. Ces imaginaires, un historien, Fred Turner, a montré comment, du coup, justement, il se déployait à travers un réseau d'acteurs californiens, hackers, qui n'avaient pas que l'idée de hacker les machines, mais aussi hacker un ensemble de connaissances dont le corps humain peut aussi faire partie, se connaître soi-même en tant que machine, rejoint certains de ses objectifs. Et il avait bien montré notamment que justement ces formes, pas seulement que de santé, de surveillance, de performance, mais plus généralement de bien-être, passaient aussi par la confrontation aux machines.
Alors j'aime bien regarder parfois la forme que prend mon trajet dans une journée. Alors là, par exemple, depuis ce matin, on dirait un triangle. Regardez, ça fait lit, cuisine, bureau. Donc, du lit à la cuisine, cuisine au bureau. Bon, c'est pas la meilleure journée. Hein. Il y a quelques jours, je suis allé courir dans une forêt pas très loin d'ici, que je connaissais pas. Une magnifique forêt, surtout là, l'automne. Et je voulais pas rester le nez collé sur le GPS, alors j'ai pris les chemins un peu au hasard. Et à l'arrivée, j'étais curieux de savoir à quoi ressemblait la course que j'avais faite. Et ça faisait comme une sorte de trèfle à quatre feuilles, un peu tordu. C'est marrant, non? C'est Borges, l'écrivain, qui disait, enfin qui fait dire à ses personnages que si on pouvait déchiffrer tous les pas que qu'on fait au cours de notre vie, tous les chemins qu'on prend, on pourrait y lire le nom de Dieu. Enfin Dieu, je sais pas, mais j'aime bien cette idée que nos pas ne s'inscrivent pas pour rien, qu'ils ont un sens peut-être, enfin que si on pouvait les garder en mémoire, on pourrait révéler une vérité, enfin... Ben, je vous dis ça, mais là, je suis sur place sur un tapis de course.
Cette expérience du wellness est assez emblématique de ce que j'ai nommé l'adieu au corps, dans la mesure où finalement le corps existentiel, le corps réel, s'efface totalement derrière les paramètres qui sont enregistrés par la machine. Donc on a bien affaire à une forme de désincarnation de l'humain et à un type de médecine qui renchérit encore d'ailleurs sur l'absence de la concrétude du patient. Déjà, disons que la médecine est problématique en ce que très souvent elle nous voit comme des organismes et non pas comme des sujets. Et là, c'est l'organisme réduit à une multitude de data. J'avais parlé dans mon livre d'ailleurs d'un individu régnant sur un archipel d'organes fantômes, même des fonctions fantomatiques et autres. Là, à mon avis, on serait bien dans ce registre-là. C'est-à-dire donc d'une abstraction encore plus grande de ce qui fait la concrétude de notre rapport au monde au quotidien. L'imaginaire du corps qui est en jeu ici, c'est un imaginaire d'un corps mécanique. On est un peu dans les séquelles contemporaines, finalement, des approches cartésiennes ou de la philosophie mécaniste. C'est-à-dire l'idée que, finalement, notre condition humaine, c'est un assemblage de fonctions, d'organes qui nous donnent vie et puis qu'il n'y aurait rien d'autre, quoi. C'est une approche extrêmement matérialiste, dualiste aussi, puisqu'elle isole le corps du sujet. Pas seulement de l'âme ou de l'esprit, parce que ça c'est une autre forme de dualisme, mais pour moi le corps n'existe pas, nous sommes notre corps, on ne peut pas séparer notre corps de notre personne, donc opposer pour moi le corps à l'esprit ou à l'âme, c'est totalement abstrait à bien des égards. Mais bon, donc la médecine occidentale est efficace sur un certain registre, du fait de cette focalisation uniquement sur l'organisme et pas sur la singularité du sujet. La machine, en revanche, risque fort donc d'éliminer complètement la singularité du sujet, c'est-à-dire son visage, sa voix, son histoire. Il faut donc être dans un processus d'enchantement avec la machine. Je sais que ça peut exister chez un certain nombre de nos contemporains qui sont dans des formes de techno-prophétisme et qui substituent les dieux absents par ces machines. Mais je crois que dans une grande majorité de patients, nous sommes plutôt dans l'attente d'un ou d'une professionnelle qui soit attentive à nos préoccupations et puis qui nous donne des solutions. Qui nous accompagne. Pour moi, d'ailleurs, la médecine, c'est un processus d'accompagnement.
Viens voir deux secondes, s'il te plaît. Juste vérifier quelque chose sur ton bracelet. Fais voir. Ça n'a pas bougé, là, depuis tout à l'heure, ça?
Ça n'a pas bougé, oui.
Bon. Ok. C'est bon, vas-y.
Et Marguerite Yourcenar a une formule d'ailleurs absolument magnifique dans l'œuvre au noir, où elle raconte l'errance à travers l'Europe de trois philosophes, dont l'un ressemble énormément à Vézal, qui est le fondateur de l'anatomie dans nos sociétés, et les deux autres, c'est un père et son fils, qui sont des hommes de la Renaissance. Et ils ont toutes les curiosités du monde, ils s'intéressent absolument à tout. Et il se trouve qu'un jour, le fils va mourir dans une chambre d'auberge, et Marguerite Yourcenar a cette formule absolument extraordinaire. Ces deux hommes sont en même temps des anatomistes, et ils ont l'aubaine d'un corps, et donc ils vont ouvrir le corps de ce jeune homme, et Marguerite Yourcenar a cette phrase, et ils se penchèrent sur ce corps qui n'était plus ni le fils ni l'ami, mais un bel exemple de la machine humaine. En une phrase, Marguerite Yourcenar dit toute l'histoire du corps dans l'histoire de nos sociétés. Donc le fait d'isoler la dimension du corps de notre singularité d'homme ou de femme, et puis l'universalité en même temps du corps. Ce que Descartes appellera le mécanisme, le corps-machine de la maîtrise, etc. C'est en effet un corps universel.
Sophisticated space mission in the history of mankind. The next 20 years, our crew will be traveling over 4 billion kilometers away. 9 years in deep space. Let me introduce you to the largest Neptune's moon. This is Triton.
Ça c'est un serious game, on appelle ça, c'est-à-dire c'est un jeu en ligne qui reproduit en fait les conditions de vie réelle dans certains cadres. Et là, dans ce cas précis, ce jeu, il simule un voyage dans l'espace à travers le système solaire d'un équipage isolé et qui donc dépend de l'analyse que vont faire les joueurs, hein, donc nous, pour s'assurer de leur santé au cours du voyage, sachant qu'évidemment, isolé sur un vaisseau spatial, on ne peut pas envoyer un hélicoptère pour un rapatriement d'urgence, donc il faut prévenir un maximum les dangers. Donc là, on est rentré dans la mission, donc là, on a un des membres d'équipage, donc une jeune femme. Alors toutes les informations donc, sur... son séquençage donc du génome, toute l'historique de santé, l'historique familial. Et là, donc, par exemple, on peut rentrer dans le dossier analyse du génome. Ici, donc, on a les chromosomes 19 à 24, et là, sur le 19e chromosome, on voit une petite mutation. Et on a l'information comme quoi cette mutation pourrait être liée, dans certains cas, à des problèmes cardiovasculaires. Pour gérer les risques liés à ça dans son comportement, son hygiène de vie sur le vaisseau, on a aussi un soutien possible de la part de deux advisors qui sont eux restés sur Terre. Donc là, on a le docteur Joy Carden.
Risk for complex diseases like those you are working with here are influenced by a number of different factors, including multiple genetic factors that often individually influence risk only a smaller.
Donc moi j'ai participé à l'élaboration de ce jeu, j'aime bien ça, c'est prenant, on a l'impression d'y être.
Est humaine parce qu'elle a une dimension symbolique, hein, parce qu'elle s'accompagne d'un langage de souffrance, langage de crainte, etc. Et parce que la maladie transforme notre conception du monde, la relation avec notre famille, la relation avec nous-mêmes et avec nos espoirs et avec notre conception de l'existence d'une façon générale. Donc une maladie est humaine parce que elle a cette composante symbolique à côté de la matérialité même de la maladie qui concerne le médecin et les soignants. Donc dans l'optique d'une médecine connectée, on fait complètement l'impasse sur cette dimension symbolique. On est dans un contexte où ce que l'on veut éviter, c'est la panne, parce qu'il faut qu'on fonctionne. Hein, voilà, fonctionner, dysfonctionner, rencontrer des pannes, rencontrer des gens qui vont savoir vous réparer, et des dispositifs techniques qui vont permettre de faciliter cette réparation. Il n'y a rien d'humain. Il y a un livre de George Steiner qui s'appelle « Après Babel », qui pour moi est une mine qui comporte une définition de l'humain à laquelle je souscris complètement. Il dit, à un moment donné, l'humanité commence avec le mensonge. Avec le mensonge. C'est le jour où on a pu utiliser le langage pour dire ce qui n'est pas que l'humain s'est construit. Parce que le langage s'est fait précisément pour dire ce qui n'est pas, pour dire ce qui pourrait être, pour dire ce qui a été, pour dire ce qui sera, etc. C'est ça, être humain. Et cette dimension symbolique de l'humain qui m'intéresse tellement, elle est tout entière dans cette conception du langage. Je crois que le développement des technologies, le fait que les sociétés sont convaincues que leur prospérité passera par les innovations technologiques, conduit à une approche de l'humain qui est très très désymbolisée, qui est très désenchantée. Nous sommes de plus en plus des individus simplifiés, nous sommes simplifiés à tous égards, notre vie intérieure n'a pas grand sens, la psychologie qui prévaut c'est la psychologie du comportement, c'est-à-dire de l'action-réaction, de l'input-output, nous sommes très très largement considérés comme des individus dont il faut gérer les flux. Donc il y a dans la logique des sociétés technologisées une simplification de l'humain qui va passer par le fait que nous sommes obligés de répondre à des injonctions, à des injonctions qui n'admettent que la logique binaire, oui, non, I like, I don't like, enfin, etc. Nous sommes obligés parce que la société qui fait prévaloir le signal sur le signe, et la différence entre signal et signe est importante, un signal c'est un message qui attend une réponse comportementale, feu rouge, je m'arrête, le signe c'est un message qui appelle un autre signe. Nous dialoguons lorsque nous échangeons des signes. Et avec tout ce que ça a d'aléatoire, avec tout ce que ça a de séducteur, de mensonger, on prend le risque de sa liberté lorsque on échange des signes. Là, nous sommes dans une société qui fait prévaloir le signal, et qui essaie de donner à penser que c'est du signe. Bref, nous sommes dans une société où domine la statistique, et de ce point de vue-là, eh bien, les objectifs d'une médecine connectée qui nous ravalerait aux insectes sociaux n'est pas étonnant. Et il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, nous commencions à souffrir de n'être plus pris en considération. Nous n'existons plus que sous la forme d'IRM, de scanners et autres. Nous n'existons plus que dans une forme qui tourne le dos au dialogue, à la durée, à la réflexion. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de contrôle. Les technologies servent avant tout à ça, à satisfaire les impératifs du contrôle. Alors on peut s'en désespérer, on peut s'en réjouir, on peut trouver que ça nous anonymise d'une certaine manière et que ça nous libère. Certains pourront dire cela, qu'on est libéré de bien des soucis, et puis on peut espérer l'avènement d'une d'une médecine qui reposera beaucoup sur les neurosciences et qui nous dispensera de souffrir. Hein. Nous serons dans une société de bien-être grâce à la ritaline, au modafinil et à
les vois.
Adjuvants technologiques issus des neurosciences. Oui.
Oui, j'entends souvent ce genre de critiques et. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion d'entendre Jean-Michel Beignet, c'était lors d'un forum organisé par Libération. Alors, le premier qu'on a entendu, par contre, David Le Breton, le sociologue, lui, je le connais moins bien. Mais bon, l'un comme l'autre, je dirais, ils sont dans une approche assez française du sujet. C'est-à-dire que, et si je peux me permettre, je trouve que c'est un peu trop philosophique comme point de vue. Parce que pour ma part, je pense que la maladie, avant tout, c'est une souffrance inutile. Alors, pourquoi s'empêcher d'éviter la souffrance quand on a les moyens de le faire? Et je ne pense pas non plus que les membres du wellness se réduisent à des machines. Au contraire, je pense que grâce à nos algorithmes, ils peuvent justement éviter de devoir dépendre en dernier ressort de machines médicales ou de traitements. Alors, on peut bien sûr toujours craindre les excès de la technologie, mais est-ce que les progrès de la médecine nous ont vraiment déshumanisés? Je pense pas. Pour ma part, je pense qu'on est plus humain lorsque notre corps nous permet vraiment de l'être, de pouvoir partager le plus de choses possibles avec les autres, sans être préoccupé par son état de santé. Je vais prendre l'exemple de ma fille. C'était il y a 2 ans, donc on était encore aux États-Unis. J'étais en pleine réunion avec mes collègues, quand je reçois une notification de notre système familial qui indique que les paramètres physiologiques de Violette s'étaient complètement affolés. C'était vraiment anormal et en même temps, je ne parvenais pas à savoir si c'était vraiment représentatif de quelque chose de sérieux ou pas. Moi, j'étais quand même inquiet, du coup, j'appelle l'école. Et donc là, on m'apprend que Violette est tombée d'un seul coup de sa chaise et qu'elle a commencé à avoir des convulsions. Mais que là, elle était à l'infirmerie et que ça semblait aller mieux. Alors, je suis évidemment allé à l'école pour la prendre, et de là, on est allé à l'hôpital. Et donc, on a fait toute une série de tests. Et il s'avère qu'il s'agissait d'une crise d'épilepsie bénigne. Hein, donc, rien de grave en soi. Et on sait que c'est pas très grave. Mais malgré tout, la présence du bracelet nous rassure sur une éventuelle récidive, même si c'est peu probable. Je pense qu'on aurait peut-être permis moins de choses à Violette. Donc, simplement la laisser faire un tour de vélo toute seule, ça aurait été difficile et ça aurait été dommage.
Donc cette interview, je l'ai réalisée il y a quelques mois en arrière. Maxime revenait justement de Californie, de Uxan, avec tout son équipement connecté. Je suis anthropobiologiste et anthropologue de la santé. Sur la santé connectée, je travaille avec des CHU. Et des médecins qui affichent un intérêt particulier sur les sujets éthiques. Et puis aussi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le rapport que du coup entretiennent les médecins et les ingénieurs. On disait il y a quelques années en arrière que bientôt, au chevet des patients, se trouverait un ingénieur. Ce que Maxime met en place finalement, c'est la transformation du « comment vas-tu » à celle du « combien fais-tu ». Concrètement, de wellness, c'est la médecine des 4 P. C'est-à-dire préventive, prédictive, personnalisée et dite de preuve. Dans les faits, c'est assez problématique, car dès ses débuts, le prédictif se rattache à principalement 2 outils, qui sont la génétique et l'analyse épidémiologique en temps réel que permet l'IA, l'intelligence artificielle, qui tiennent compte de moyennes d'individus capables de contracter telle ou telle maladie dans le futur en fonction de leur linéage génétique. Et on peut imaginer que pousser dans ces retranchements extrêmes, espèce de paroxysme d'envie d'être en bonne santé en suivant ces données, on peut imaginer que demain, en France, on se retrouve un petit peu comme en Chine, dans des perspectives de citoyenneté, en fait, et de bonne citoyenneté et de mauvaise citoyenneté, basées sur ces données de santé. On se retrouve dans des sociétés qui ont tendance à devenir de plus en plus autoritaires, en se basant, en s'axant sur la santé des gens. Si on a une bonne santé et on est dans l'obligation de souscrire à toutes les techniques et les technologies qui nous dirigent vers cette bonne santé, ça va. Si on a une mauvaise santé ou si on a des soucis de santé, ça ne va plus. On se retrouve un petit peu diminué, finalement, dans ses fonctions de citoyen et on n'a plus les mêmes droits que les autres. Puis si on n'est pas d'un mauvais citoyen, on perd des points. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Mon Dieu.
Ah, ça, c'est mon vieux piano où j'ai appris à jouer quand j'étais petit.
Maxime, dans son genre, finalement, me fait un petit peu penser à Kurt Weill, qui décrivait un magnifique coucher de soleil sur un lac comme un ensemble d'algorithmes impossibles à coder.
Ah bon, ça, c'était à l'époque. Hein. Et voilà. Ça, c'est mon home studio. Alors, là, j'ouvre une session. Voilà. En fait, ça, c'est un logiciel qui a été réalisé par des chercheurs qui permet de faire de la data sonification. C'est-à-dire qu'on prend des... on transforme des données en son. Donc, on transcrit des variations de données en variations musicales ou sonores. Donc là, j'ai importé toutes mes données issues du wellness. Ouais, je vous fais écouter. La musique électronique, ça m'a toujours passionné parce que cette possibilité de fabriquer des sons complètement neufs avec des algorithmes, en fait, de faire jaillir des sons complètement différents de ceux qu'on peut avoir avec des instruments classiques. C'est une façon en quelque sorte de hacker le son, j'ai envie de dire. Je m'amuse beaucoup avec mes propres données, avec celles de mes proches, et les sons de nuit surtout. J'adore travailler les données qui viennent du sommeil. Je trouve que... Enfin, je sais pas, ça me plaît de penser que les sons qui en sortent reflètent d'une certaine façon l'état dans lequel je me trouvais en pleine nuit. Et une partie de mes rêves aussi, du coup.
Un petit peu un anti-monde derrière tout ce rêve de monde connecté. Et cet anti-monde se passe sous nos pieds. Et il se passe... En fait, il faut regarder toute notre santé connectée, non pas à travers forcément les discours des technoprophètes, des politiques. Il faut le regarder à travers le monde des gens qui extraient cette matière. Tout ce qui se passe au-dessus de vos têtes, en fait, ça a un impact sous vos pieds. Vous me parlez de données médicales qui vont permettre d'améliorer la santé des gens. Ces données vont être captées et puis ensuite elles vont être stockées dans des serveurs avant d'être dirigées vers des interfaces pour pouvoir être transformées en services. Et ces services, ce sont des services médicaux. Mais dans ce stockage, dans ce cloud. Ce stockage de données, en réalité, plus vous allez stocker dans le cloud, dans le nuage, plus il va falloir creuser profondément. Il faut notamment la présence dans ces technologies de métaux rares et d'un métal rare qu'on appelle le lutécium. Le lutécium, c'est un métal tellement rare qu'il faut 1200 tonnes de roche pour aller chercher 1 kg de métal. Donc imaginez ce que ça représente que 1200 tonnes de roche pour arriver à 1 kg de métal purifié qui lui va servir pour cette technologie. Les mines de terres rares sont des mines à ciel ouvert. C'est-à-dire que dans la province du Jiangxi, par exemple, dans le sud de la Chine, on voit bien en fait que ce sont des open pits, comme on dit. C'est même d'ailleurs, j'ai été assez frappé de voir que ce sont, c'est une très belle région, le Jiangxi, une région absolument magnifique, avec des pains de sucre partout, qui sont couverts de forêts de lotus et palmiers. Et en fait, j'ai vu littéralement les pains de sucre coupés en deux pour en fait extraire la roche. Après l'extraction, il faut raffiner. Vous avez la mine, la roche, mais la roche doit être transformée en minerai, qui doit être transformée en métal, et vous avez besoin d'usines de raffinage dans lesquelles, en fait, on sépare les minerais entre eux avec des produits chimiques et toutes sortes de produits chimiques qui permettent, en fait, cette séparation. Et là, j'ai vu, en fait, les lacs artificiels dans lesquels, en fait, on rejette les eaux usées chargées de métaux lourds et d'acides qui ont permis cette purification. On parle de processus de raffinage, mais ce que je n'ai vu n'est pas du tout raffiné. En fait, on voit des gigantesques zones absolument dévastées avec des boyaux qui rejettent en fait des boyaux métalliques qui rejettent en fait toutes les eaux usées il y a des kilomètres à la ronde devant vous. Vous avez des paysages martiens lunaires avec en fait toute cette matière, ces rejets faits de métaux lourds et d'acides qui sont rejetés à même la nature et qui ensuite débordent dans les fleuves, dans les rivières, dans les nappes phréatiques. Donc c'est ça la réalité de la transition numérique. Ce sont ces zones minières et ces zones de raffinage qui en fait sont des enfers dedans. Fameux lac de rejet artificiel dont je vous parle, vous avez des villages de gens qui vivent littéralement autour de ce qui n'était avant d'ailleurs pas un lac de rejet artificiel, et puis l'industrialisation de la zone a transformé les paysages. Et vous avez notamment plusieurs villages, mais il n'y en a pas que là, il y en a en fait partout dans le pays, à moitié d'ailleurs abandonnés, parce que les gens ont fui compte tenu de la pollution générée par l'impact de l'activité minière et de l'activité de raffinage, et ils ont fui parce que tout d'un coup les taux de cancer devenaient alarmants et ils ont vite fait un lien entre ce qui se passait à leur fenêtre et l'impact sur leur santé. Et ces villages ont été surnommés par eux-mêmes, mais en réalité ont été surnommés partout dans la région, les villages du cancer, parce que les gens meurent d'un taux anormalement élevé de cancer pour produire les minerais de votre santé connectée à l'autre bout du monde. Nous sommes face à toutes nos contradictions, et moi le premier, écologique. Nous voulons d'un côté un monde numérique dématérialisé qui nous est vendu aussi comme du coup plus respectueux de l'environnement, mais de l'autre côté, nous ne voulons pas assumer les conséquences en termes d'extraction minière de ces technologies-là. Et un téléphone portable, c'est 70 kg de matière pour arriver à un téléphone portable de 120 grammes. Il a fallu transformer 70 kg de matière pour arriver à un tout petit téléphone portable. C'est-à-dire que c'est un ratio de 1 à quasiment 600 entre le produit fini et tout ce qu'il a fallu en amont. Personne n'a conscience de ce ratio-là. Si maintenant dans mon jardin, je change de téléphone demain et qu'on me dit très bien, mais je vais te faire un trou là, de 70 kilos de terre. Le trou, il va faire, je sais pas combien, mais peut-être un bon mètre cube. Et au prochain téléphone, je vais te refaire un second trou. Et pour ta voiture, je vais te faire un trou encore plus haut. À ce moment-là, je vais peut-être me dire, ok, est-ce que je vais changer de voiture? Est-ce que je vais peut-être utiliser plutôt le train? Ou est-ce que je vais peut-être ne pas changer de téléphone portable? Ou l'utiliser différemment, etc., etc. Et donc moi, je crois en fait à cette nécessité à un moment de faire prendre conscience aux gens de la réalité de leur mode de vie connecté, en les forçant à regarder en face et à assumer collectivement dans nos pays à relocaliser la pollution de ces matières premières de façon à pouvoir voir le lien, le coût réel, le lien direct entre la matière première et le produit fini.
Non, pas maintenant. D'abord une histoire.
Une histoire ? On a déjà lu une histoire.
Mais encore une histoire, mais une petite.
Bon, d'accord. Allez, une petite. Alors.
C'est quoi ça ?
Ça, c'est qui était le roi soleil ? Tu sais qui était le roi soleil ?
Non.
Alors, c'est un roi qui s'appelait Louis XIV. On l'appelait comme ça parce qu'il voulait être aussi puissant que le soleil. Et un jour, il s'est même déguisé en soleil. Pour une fête.
C'est quoi ça ?
Celui-là ? Alors là, c'est les jardins. Alors, qui a créé les jardins ? Ouvre. Tu vois, ça, c'est les jardins du roi. C'est André le Nôtre. C'est les jardins, on les appelle les jardins à la française. Ils sont connus parce qu'ils sont très symétriques, avec beaucoup de fontaines et d'arbres. Allez.
Donc. C'est quoi, ça?
Ça, c'est les pirates. Regarde, tu vois. Allez, on fait dodo?
Oui.
Ouais, je te mets la musique?
Oui.
Bisous, ma puce.
Wellness est une sorte d'émanation très proche du transhumanisme, avec une idée de toute puissance sur la santé, toute puissance de l'individu sur lui-même, parce que ça va nourrir évidemment ce fantasme-là, de je contrôle absolument tous les paramètres de mon corps, rien ne peut jamais m'arriver, etc. Bon. Alors qu'il y a tellement d'imprévisibles finalement dans le monde. Ça renvoie aussi à un soupçon, plus qu'un soupçon d'ailleurs, une certaine haine du corps dans le monde d'aujourd'hui. Le corps, le lieu de la mort, de la maladie, de la fatigue, du vieillissement, enfin de tout ce qui est perçu comme des limites, entre guillemets, par un certain nombre de scientifiques qui croient au sens religieux du terme dans la science et qui voudraient s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce fantasme-là que j'avais justement analysé dans les duos corps, quoi. C'est en pointant l'hyper-puritanisme de cet univers où tout est sous contrôle. Ça m'inspire la magnifique nouvelle de Borges, Funès ou la mémoire, où Borges imagine un homme qui a un accident quand il est tout jeune et qui est dans la capacité d'oublier. Mais à partir de ce moment-là, il est absolument incapable de vivre, parce que vous lui dites, rappelle-toi ce qui s'est passé il y a 10 ans à telle heure, et il va vous décrire absolument toutes les couleurs, les émotions qu'il ressentait, ce que les gens ont dit, etc. Donc la mémoire, si elle n'est pas accompagnée d'oubli, elle est absolument écrasante. Ce que dit Borges a une profonde valeur anthropologique, hein, c'est pas seulement une fiction. Donc ce qui fait, notre mémoire est en permanence en mouvement. C'est-à-dire en permanence on oublie des choses, mais parce qu'on renouvelle, on apprend, on ne cesse d'apprendre. Et le monde d'aujourd'hui a une tendance à la fois à liquider la mémoire, dans l'Internet, à travers les data ou les enregistrements, on veut tout garder en mémoire. Voilà, c'est très étrange, mais ce n'est pas la mémoire de nos existences, quoi, qui, elle, est en effet aussi fondée sur l'oubli. Donc il faut accepter les limites du corps, mais aussi les limites de la mémoire.
Dans le wellness, moi je me souviens d'une utopie qu'avait écrite Skinner. Skinner, c'est le fondateur de la psychologie du comportement. C'est-à-dire cette psychologie qui déclare que si on veut être scientifique, il ne faut pas espérer faire l'investigation de l'intériorité des humains. L'intériorité n'est pas un objet de science possible. Donc on ne peut faire la science de l'humain que sur la base de l'observation. L'observation. Donc un être humain, c'est un être qui est doté de la possibilité de recevoir des stimuli et de livrer des réponses. Et la psychologie, c'est toute cette discipline qui cherche à travailler sur la relation entre stimulus et réponse. Donc Skinner, le fondateur de cette discipline, qu'on a appelé aussi le behaviorisme, eh bien, il avait écrit une belle utopie qui s'appelait Walden 2 en 1948. Et cette utopie, c'était l'utopie d'une société qui ne fonctionnerait que sur la base des enseignements de cette psychologie comportementaliste. Et cette société, eh bien, elle est décrite sur le mode d'une utopie. Un voyageur se perd sur la mer et puis accoste sur une île et découvre tout à coup. Enfin, c'est vraiment le modèle de l'utopie classique. Et ce qui est étonnant, c'est que le héros de cette utopie résiste évidemment beaucoup dès le départ. Enfin, il a l'impression là qu'on est en train de machiniser complètement les humains, etc. Mais il voit rien de scandaleux. Il ne voit que des gens qui sont épanouis parce que ils savent toujours ce qu'ils peuvent attendre les uns des autres. Hein, on est dans un système où les attentes sont toujours satisfaites. Donc c'est une société qui fonctionne. Et les derniers mots de cette utopie sont les suivants. Il faut remplacer l'intelligence par l'instinct. Remplacer l'intelligence par l'instinct. C'est ça le modèle de la société idéale basée sur la science et la technologie. Parce que toutes les grandes utopies, depuis Thomas More, sont des utopies aussi qui cherchent à régler la relation entre les individus sur un mode tel qu'il n'y a plus de hasard, hein, qu'il n'y a plus d'imprévisible, hein, que tout est anticipable, et que par conséquent, il n'y a pas de source de mal-être. Donc de ce point de vue-là, le wellness est dans cette tradition des grandes utopies.
Est-ce que tu veux ma puce? Regarde. Là, je t'ai amené. Tu veux un morceau de pomme?
Non, je voudrais bien avoir une lunette à la fraise.
Celui-là, là?
Oui.
Tiens, tu veux que je te l'ouvre ou tu y arrives?
J'y arrive. Merci.
Donc, The Wellness n'existe pas. Wellness est une proposition fictionnelle de ce qui est en train de se mettre en place réellement en santé. On est en train d'utiliser tous ces outils-là pour pouvoir maximiser les conditions de vie, voire les améliorer par rapport aux enjeux que représente aujourd'hui la médecine prédictive.
Tiens, fais voir, tu peux vérifier un truc. Ah, tu vois là le chiffre ici, là, le 12.
Ça, ça veut dire que... Tu te souviens ce que je t'avais expliqué? C'est le sucre.
Mais Maxime n'est pas tant une fiction que ça. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui se consacrent vraiment, qui consacrent leurs énergies et leur formation à pouvoir développer plein d'outils qui, derrière, sont applicables de façon très, très concrète sur le corps et pourquoi pas en santé.
Super, c'est très bien. Alors tu vois, essaye de continuer, essaye d'aller un tout petit peu plus vite pour arriver à 40 ici. Tu vois le chiffre là?
Oui.
Vas-y, essaye.
Ouais, super, waouh. Très bien.
Ces vaches écossaises évoluent avec le progrès. Elles portent une sorte de bracelet avec une connexion permanente à un réseau sans fil. Selon les agriculteurs, ce genre d'équipement n'améliore pas seulement le bien-être des vaches, il favorise aussi le commerce.
Chacun de ces facteurs peut permettre de détecter si la vache est malade ou commence à le devenir. Le facteur clé de ces colliers, c'est qu'ils peuvent signaler ces problèmes avant qu'ils ne deviennent très sérieux.
Ces problèmes, avant qu'ils deviennent très sérieux, serious problem.
Nous sommes quelque part dans l'inachevé. Quelque part dans l'inachevé. C'est-à-dire le monde, justement, nous est donné de ce qu'il est imprévisible, pour le meilleur et pour le pire, bien entendu, ça peut être aussi parfaitement pour le pire, mais c'est ça qui alimente le goût de vivre, c'est-à-dire notre capacité de se projeter dans le temps. Donc l'inachèvement, c'est cela, c'est une liberté de l'imaginaire, une liberté d'action, une marge de manœuvre absolument considérable, mais qui est liée à notre condition incarnée, en quelque sorte.
Accepter effectivement d'être ces êtres vains, ces êtres de vacuité que nous sommes, et faire avec. Hein, vivre, c'est faire avec. Et de ce point de vue-là, je crois que nous ne vivons jamais que sur le mode du baroud d'honneur. Hein, nous savons très bien que ça va mal finir. Hein, bon, mais en attendant, bon, il y a des choses. Il y a des choses dont on peut jouir, dont on peut se régaler, allons dans ce sens-là.
Le corps.
Voilà.
Combien de cheveux a-t-on sur la tête? Entre.
C'est un peu difficile.
Entre
100 000
et
150 000
tous les jours on en perd plusieurs, tandis que de nouveaux poussent.
The Wellness,
un documentaire de Marie-Annick Bello et Jean-Baptiste Verrieras,
réalisé par Gilles Mardi-Rossian,
pour Création en Air.
Avec Éric Dagiral, Élodie Jean, David Le Breton, Jean-Michel Beignet, Judith Nico-Gossian, Guillaume Pitron.
Et avec Luc Guillol dans le rôle de Maxime, Héloïse Philippi dans le rôle de Violette, Nox dans le rôle de Nox.
Prise de son, Marc Garven.
Et Philippe Mercher.
Mixage,
Claire Levasseur.
Creation on air.
C'était The Wellness de Marie-Annick Bello, J.P. Verrieras et Gilles Mardi-Rossian. La semaine prochaine, Xi, Picabian Night, un manga musical. Creation on air se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr. Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les nuits, des trésors d'archives sélectionnés par Philippe Garbi.